Donc voilà, on va prier pour demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur de ta grâce pour nous tous. Merci que le message d'aujourd'hui puisse nous être utile. Je me mets dedans, Seigneur, parce que j'ai mes besoins, comme mes frères et sœurs, et même davantage. Merci de nous conduire. Merci pour cette assurance que nous pouvons avoir, que tu le fais. Et si on peut qu'on te laisse nous conduire, Seigneur, tu le fais tellement bien. Merci et de l'accomplir maintenant, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors la série sur le discernement va se terminer avec aujourd'hui on va voir les dangers du discernement. Les dangers du discernement, comment ça peut être dangereux de discerner, ça peut être dangereux de le faire un petit peu de travers ou dans de mauvaises conditions ou avec une mauvaise intention. En tout cas, c'est un défi que nous avons. On est dans la vérité subjective, dans notre 21e siècle, du moins, c'est ce qui est promis. Voilà, rien n'est certain, on ne peut être sûr de rien, finalement. Et ça arrange tout le monde. Il n'y a pas besoin d'un Dieu transcendant qui nous révélerait la vérité, afin que nous nous mettions tous d'accord et que nous marchions tous ensemble dans une même direction. Bon, finalement, c'est mieux, plus confortable que chacun trouve sa propre liberté, construise sa propre vision de sa vie, du monde. Et maintenant, on a en plus plein de personnes, d'influenceurs qu'on peut suivre et qui vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre. L'homme serait-il enfin libre de faire ce qui lui plaît? Cette liberté, il le revendique même comme un droit ultime, car il n'y a pas de vraie vérité. Mais bon, vous savez, la réalité est là, elle nous rappelle ces choses. C'est un mensonge de dire qu'il n'y a pas de vérité. Et l'Évangile, elle se présente comme la vérité objective, qui est une personne dont on vient de célébrer le souvenir de sa mort, de sa résurrection, Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait cette déclaration que l'on trouverait aujourd'hui tellement dépassant les limites, inaudible. Il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit « Je suis, moi, la lumière du monde. Je suis le pain de vie, je suis la porte de sortie, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le cep nourricier. » Et on peut encore se poser avec Ponce Pilate cette question, mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Et en tant que témoin de Jésus, nous avons cette responsabilité que de faire connaître cette vérité, de faire connaître Jésus, et pour cela, il faut la sanctifier dans notre cœur. Sanctifiez dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, nous a écrit l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 15. Donc, il faut discerner. Discerner le chemin étroit qui mène à la vie, du chemin large qui mène à la perdition. Discerner la vérité de l'erreur, discerner la vie de la mort, discerner la lumière de l'obscurité, discerner le pain de vie du poing empoisonné, et discerner le bon berger qui donne sa vie du mercenaire qui travaille pour de l'argent. Et pour discerner, on a vu qu'il fallait nourrir ce discernement par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, que ce soit personnellement, que ce soit avec les frères et les sœurs. Il faut évaluer la spiritualité de l'enseignement qui nous parle, observer sa vie, évaluer cet enseignement par rapport aux fondements, aux vérités fondamentales que l'on trouve dans les Écritures. Il nous faut discerner l'appel du monde qui veut nous attirer à lui et discerner les esprits. Est-ce qu'ils se déclarent pour Jésus-Christ tel que le décrivent les apôtres ou pour un autre Jésus ou pour pas de Jésus du tout? L'exercice du discernement est donc nécessaire, mais il n'est pas sans danger parce qu'il peut être réalisé sans amour et il peut être faux, tout simplement, se tromper. Les dangers d'un discernement sans amour, j'ai des textes que je vais vous lire. Alors je vous demande d'écouter attentivement parce que c'est surtout les textes qui vont nous parler plus que moi ce matin. Le premier texte, on va le prendre en Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16. Épître aux Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. C'est lui, Jésus, je lis dans la seconde 21, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, verset 15, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ, la tête du corps. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et il s'édifie lui-même dans l'amour. Pour pas être emporté en tout vent de doctrine. Voilà. Dieu, Jésus a pourvu des hommes. Et il dit ici, en disant la vérité dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour. Combien de fois avons-nous fait faillite sur ce sujet-là où nous avons balancé une vérité, comme on dit, du moins celle qu'on croyait, aux oreilles d'une personne? Et l'amour n'était pas là. Cela m'arrive tellement souvent. En disant la vérité dans l'amour, la vérité doit être imbibée d'amour. Elle doit être noyée dans l'amour. J'ai pas d'exemple à vous laisser qui me soit venu à l'esprit. J'ai des contre-exemples. On se souvient beaucoup des exemples dont on a vécu des autres qui nous ont dit des choses sans amour. Et j'en ai en tête, hein, une fois j'ai un frère qui m'a convoqué dans ce bureau pour me dire toutes sortes de choses que je savais déjà. Et ça m'a pas du tout aidé. Lui, il pensait m'apprendre des choses, mais je les savais déjà. C'est un danger que de discerner sans aimer. Un danger est de discerner sans aimer. Un autre texte. Dans la première à Timothée, chapitre 1, verset 3 à 5. On a lu ce texte. Bon, c'était déjà l'an dernier. quand on faisait Timothée. Chapitre 1, verset 3 à 5. À mon départ, donc c'est Timothée qui écrit, c'est Paul qui écrit à Timothée, son jeune collaborateur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse. On est toujours à Éphèse. Pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin, qui produisent des controverses, au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont égarés de cette ligne et se sont écartés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec tant d'assurance. Paul encourage Timothée à défendre à l'église d'Éphèse la véritable doctrine. Et on voit que cette doctrine, cet enseignement est au service de l'amour. Cette défense de la foi, cette défense des vérités centrales, elle est au service de l'amour. Elle doit produire chez celui qui l'entend l'amour. Le but, c'est que chez l'auditeur naisse un amour pur, une bonne conscience, une foi authentique envers le Seigneur. Cela vise l'amour. Et le but donc n'est pas d'avoir raison. Le but est d'édifier dans l'amour. Premièrement, faire grandir l'amour pour Dieu. Deuxièmement, faire grandir l'amour pour le prochain. Voilà la façon dont Paul présentait à Timothée son travail. Faire grandir l'amour pour Dieu dans les personnes à qui il allait parler. Faire grandir, avoir une bonne conscience. Faire mieux, susciter une foi authentique en Dieu. Et donc, un danger est de discerner, de parler sans faire aimer, sans pousser à l'amour. Troisième texte. On est toujours dans l'église d'Éphèse, mais là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui écrit cette fois-là. On est en Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Donc c'est juste un extrait de la lettre. Vous la retrouverez au chapitre 2, tout à fait à la fin de la Bible, si vous voulez la lire complètement, dans son intégralité. En tout cas, voici la dictée qu'a reçue l'apôtre Jean pour la lettre qu'il devait transmettre à l'église d'Éphèse. On est chronologiquement, les trois lectures se suivent, et là on est beaucoup plus tard, une vingtaine d'années après. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais, verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude, à moins que tu ne te repentes. On voit que l'église d'Éphèse s'appliquait à bien appliquer toutes les consignes des apôtres. Mais on voit qu'elle est atteinte par ce qu'on appelle le légalisme. C'est vrai qu'elle supporte pas les méchants. C'est vrai qu'elle met à l'épreuve ceux qui prétendent être apôtres sans l'être. Elle exerce le discernement. C'est vrai qu'elle est persévérante, qu'elle souffre à cause du nom de Jésus, qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle poursuit. Mais voilà, elle est atteinte par cette maladie de fer, par obligation. Elle le fait par obligation. En fait, cette église n'aimait plus Jésus. C'est tragique. Et c'est quelque chose qui guette toutes les églises. Que on fait. Mais on fait bien. Mais le cœur n'y est plus. Il n'y a plus de motivation d'amour dans ce qu'on fait. On peut être très fort en discernement, en connaissance doctrinale, en connaissance de la Bible. On peut éblouir tout le monde. Mais s'il n'y a plus d'amour dans notre cœur pour Jésus, c'est sans valeur. Et on le sait. On le sait tellement. Mais c'est bien de se le répéter. Et on va se le répéter encore en relisant la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. L'église d'Éphèse était une église un peu légaliste à ce moment-là. Elle avait besoin de cette parole de Jésus concernant l'amour. Elle avait perdu son premier amour, l'amour du Seigneur. Et l'église de Corinthe, elle était un petit peu plus dans le libéralisme, hein, on peut dire, dans tout ce qui est permissif. Et voici ce que l'apôtre lui écrit. Chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est un danger que d'exercer le discernement en n'aimant plus le Seigneur, en n'aimant plus Jésus. Un danger de discerner sans aimer, un danger de discerner sans faire aimer, et un danger de discerner en n'aimant plus le Seigneur. Le danger d'un discernement sans amour. Un discernement faussé maintenant, un discernement qui n'est pas... Se tromper. Voilà. Je me suis trompé. On va, pour ça, lire également trois textes. Le premier sera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 1 à 5. C'est le fameux et célèbre sermon sur la montagne. On va lire un extrait de ce sermon. C'est un passage qui est très connu. Chapitre 7, versets 1 à 5. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et pourquoi ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Et j'ajouterai le verset 12 pour nous. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et pourquoi vois-tu pas la poutre? C'est vrai que quand on a une paille dans l'œil, on est gêné. C'est vraiment pas quelque chose d'agréable d'avoir une poussière dans l'œil. Il y a quelqu'un qui vous dit, mais je vois très bien là, je la vois, attends, je vais te l'enlever. Il y a un problème ici. Le Seigneur avertit, si je suis sévère avec mon frère, sévère avec les problèmes spirituels qui sont les siens, eh bien, on peut être sûr que le Seigneur sera sévère également envers nous. Alors, comme on dit, il ne faut pas chercher la petite bête en matière de compréhension de la Bible, en matière de compréhension de la foi, tant que cela reste de l'ordre, on peut dire, des détails, des choses qui n'empêchent pas de marcher, d'avancer d'un même pas, ben ça vaut pas la peine hein, d'aller déranger son frère, de lui chercher la petite bête. Si mon prochain a une petite bête dans sa doctrine, j'en ai certainement, moi, une grosse. Il est question de la poutre et de la paille. Une paille et une poutre sont de la même nature. Et bien souvent, les problèmes qu'on voit chez les autres, ben en fait, c'est les problèmes qu'on a soi-même, parce qu'on les connaît. On a du mal à voir chez les autres des problèmes qu'on ne connaît pas. Les enfants sont innocents, ils ne voient pas les problèmes. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais quand on voit des problèmes, ce sont bien sûr des choses que l'on connaît. Et si on les connaît comme ça, c'est parce qu'on les a soi-même. On a des grosses poutres chez nous. Les problèmes que je discerne chez mon frère sont bien souvent mes propres problèmes. Ainsi, notre super discernement peut être complètement disproportionné et complètement faussé par nous. C'est pour ça que c'est bien d'être plusieurs pour discerner les choses. On a moins de risques de se tromper. Hein. Ah ben moi, je vois pas du tout comme toi. Hein. Je vois pas du tout les choses de la même manière que toi. Sur telle situation, c'est bien de confronter les visions que nous avons sur tel et tel sujet. Notre super discernement peut être complètement disproportionné et faussé. Autre texte, là on est avec les disciples de Jésus, à Luc chapitre 9. Alors, c'est un contexte assez particulier. Parce que juste avant, si vous regardez le début du chapitre, on voit que les apôtres ressortent brillamment de leur envoi en mission par Jésus-Christ. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et Dieu a fait entre par leurs mains des choses extraordinaires. Ils ont assisté à la multiplication des pains. Ils étaient là quand Jésus a fractionné le pain et le poisson qu'il a distribué à tous ces gens. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils étaient là au premier loge. C'est eux qui ont fait la distribution. Ils ont également écouté la révélation qui leur a été donnée à Pierre de reconnaître publiquement le Messie. Ils ont ensuite assisté à la transfiguration de Jésus sur la montagne et là ils ont vu Moïse et puis Élie avec Jésus, avec resplendissant de blancheur. Mais après, il y a eu un petit couac là, parce qu'il y avait un problème d'un jeune homme qui avait un démon, et ils n'ont plus rien faire. Et voici donc le passage d'après. Luc chapitre 9, versets 46 à 50. Sur ce, les disciples eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Et il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi qui l'accueille. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. » Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Verset 50. Contre nous et pour nous, suivant les manuscrits auxquels on se réfère. Je discerne clairement que tu n'es pas un disciple de Jésus parce que tu n'es pas avec nous. Nous suivons Jésus, tu n'es pas avec nous, donc tu n'es pas un disciple de Jésus. Je le vois très clairement. Si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas avec Jésus. Et la vérité n'est plus Jésus, la vérité c'est nous, c'est notre groupe, c'est notre église, c'est elle qui est la vérité. Et pour être dans la vérité, il ne faut pas croire en Jésus, il faut croire et être en Jésus et être dans notre Église. Autrement, ça ne va pas. En ce qui concerne les pharisiens, Jésus avait été clair, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ça Matthieu 12, 30. Autre contexte, autre public. Mais là, en ce qui concerne les disciples qui ne sont pas de notre groupe, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Et c'est vrai qu'il est impossible de ne pas appartenir à un groupe. On fait tous partie d'une église, on fait tous partie de, voilà, on est tous attachés à quelque chose, à une église, ou à une tradition ecclésiale. On n'a pas reçu l'évangile qui nous tombe dessus sans l'intervention de l'église. Il y a toujours l'église qui intervient à un moment et à un autre. On est tous rattachés à quelque chose de ceux qui nous ont précédés. Mais notre appartenance à ce groupe peut fausser notre discernement complètement. Donc, faut prendre garde à cela. En pensant que, voilà, c'est nous qui détenons la vérité. Ceux qui ne sont pas avec nous, ils ne sont pas dans la vérité, tout simplement. Parce qu'ils ne pensent pas avec nous, même s'ils aiment Jésus. Et le texte, on peut le poursuivre au verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, les deux frères, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer. » Jésus, se tournant vers eux, leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Alors, l'expression « être à côté de la plaque » s'appliquerait parfaitement à cette situation ici en ce qui concerne Jacques et Jean. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? On peut se demander. Et souvent, peut-être vous êtes comme moi, vous vous demandez « mais qu'est-ce qui vient de me passer par la tête ?» Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là pour Jean? On peut faire des hypothèses avec notre texte, notre contexte. Ben Jean, il avait vu Élie sur le mont de la transfiguration quand même. S'il avait lu Élie, vu Élie, il pouvait faire comme Élie faisait, ordonner, prier que le feu du ciel descende et dévore ces impies qui se mettaient sur leur passage. Notre grande expérience spirituelle peut devenir de l'orgueil qui fausse complètement notre discernement. Quand notre vie chrétienne passe, quand les accumulations, les expériences passent, quand la connaissance de la Bible passe, cela peut créer en nous de l'orgueil, un instinct, une vision de supériorité par rapport à nos frères et à nos sœurs. On connaît mieux, on sait mieux, on a plus d'expérience. Et voilà, l'orgueil est là et notre discernement est complètement faussé. On a ici l'exemple de Jean, qui était un apôtre très proche de Jésus. Voilà la façon dont il est parti dans cette histoire d'invoquer le feu du ciel pour qu'il consume les pauvres Samaritains. Alors que Dieu nous garde, hein. Pour conclure, donc le discernement est au service de l'amour. Pour mon prochain, et je dois être motivé par l'amour de mon prochain, et je dois être motivé par l'amour de Dieu pour exercer ce discernement et dire la vérité quand il y a des vérités qui doivent être dites, parce que évidemment ce n'est pas aimer quelqu'un que de le laisser dans l'erreur, que le laisser sur une voie de mensonge. Ce n'est pas lui manifester de l'amour que de ne rien faire pour lui. Dire la vérité à mon prochain, mais avec amour pour mon prochain. Dire la vérité à mon prochain pour faire grandir l'amour dans mon prochain. Et dire la vérité à mon prochain, mais en aimant Dieu moi-même de tout mon cœur. Et gardons l'humilité en ce qui concerne notre discernement. Ne cherchons pas l'époux sur la tête de nos frères et sœurs. Gardons conscience que nous sommes influencés par notre Église, nos traditions. Si je peux faire une illustration, vous avez tout sans doute fait l'expérience d'aller dans une autre église différente, et là on voit des choses qui se passent, mais dans notre église on ne fait pas comme ça. Est-ce que ces personnes sont vraiment spirituelles? Je me rappelle une fois, j'étais jeune croyant et j'avais été dans une église où la Sainte-Seine, ils faisaient avec du pain normal. C'était pas du pain, il y avait du levain dans le pain. Je me disais, oh, ils mettent du levain dans leur pain, il y a du péché dans leur pain, je ne peux pas le prendre, je n'avais pas pris le repas du Seigneur. C'était ridicule. Mais bon, voilà. Ou bien, quand vous arrivez dans une église, voilà, vous venez vous installer, et puis dans cette ville, et puis vous voyez cette église, oh là là, ce frère-là qui arrive là, où il fait pas comme nous, il n'est pas comme nous, il chante différemment, il prie différemment, c'est pas un chrétien comme nous. Il est d'une autre catégorie. C'est à nous de le mettre sur le droit chemin de lui, chercher à lui inculquer la bonne doctrine. Tous ces pièges-là sont des choses très, très concrètes. Gardons l'humilité en ce qui concerne notre discernement, qui n'est peut-être que des traditions. Égard à l'orgueil, cela d'autant plus que nous avons bénéficié d'avoir de bons enseignants. Les apôtres, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques avait un très bon enseignant, c'était Jésus-Christ. Et il y avait de quoi faire naître de l'orgueil en eux. Alors voilà, étant informés de ces difficultés-là, gardons l'humilité en ce qui concerne ces choses. Pour autant, peut-être encourageant, hein, je voudrais terminer avec l'encouragement que nous laisse l'apôtre Jean. Justement, lui, en ce qui concerne le discernement. Dans la première lettre de Jean, je vais vous lire le chapitre 4, du verset 24. À la fin du chapitre. Ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, ce qui vous a amené, ce qui nous a amené à la foi, ce qui nous a fait connaître l'amour de Dieu. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il nous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Seigneur, merci parce que tu connais notre cœur, tu connais notre nature, notre expérience. Comment on pourrait bien faire ce travail, Seigneur, si ton amour n'est pas répandu dans notre cœur? Comment nous pourrions faire du bien à notre frère, à notre sœur, si ton amour n'est pas répandu dans notre cœur? Et si il ne trouve pas écho et pour t'aimer, toi, de tout ton cœur, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, selon tes instructions. Fais abonder cet amour en nous, que ainsi équipés, et tout naturellement, nous puissions nous édifier, nous encourager les uns les autres, nous garder dans la vérité de l'Évangile, nous répéter les uns les autres cet Évangile de Jésus-Christ jusqu'à ce que tu reviennes, pour que nous ne l'oublions pas dans sa simplicité. Merci de nous garder de l'orgueil, merci de nous garder de l'erreur, de nous croire plus spirituels que nos frères et sœurs, une vision mieux aiguisée. Seigneur, et si tu nous donnes d'avoir une vision et un discernement aiguisé, Seigneur, que à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Nous voulons te remercier également parce que c'est toi qui prends soin de ton troupeau, c'est toi qui es le bon berger, et tu conduis ton peuple, et tu ne permettras pas que personne ne nous ravisse de toi. Merci que nous pouvons te suivre dans la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.